France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il y a 31 ans, Clémentine Célarier embrassait un garçon en prime time à la télévision pour le premier SIDAction, un garçon séropositif. Ce baiser a changé beaucoup de choses et tordu le cou à ces idées reçues qui circulaient à tout va. Aujourd'hui, si vous allez demander à des jeunes de 15 à 24 ans si on peut attraper le sida en s'embrassant, ils seront 42% à vous répondre oui. À peu près autant à penser qu'il existe un vaccin contre le sida. 78% d'entre eux vous diront qu'on peut attraper le sida lors d'un rapport sexuel avec une personne sous traitement. Je vous épargne ceux qui pensent que la pilule du lendemain est efficace contre le VIH, voire le paracétamol. Ce qui est inquiétant, c'est autant ces chiffres qui sont très hauts que le fait qu'ils progressent. Les connaissances sur le sida, elles sont là, bien sûr, mais elles reculent. L'usage systématique du préservatif aussi. Il est urgent de refaire encore et toujours de la pédagogie. 5500 personnes en France ont découvert qu'ils étaient séropositifs l'année dernière. Parfois, d'ailleurs sans doute avec retard, puisque 65% des jeunes ne savent pas où aller se faire dépister. Il est temps, et faisons-le ce soir une fois encore, de remettre l'information au centre du village. Toutes les questions sont bonnes à prendre et nos invités les attendent. La prévention, les traitements, la PrEP pour les conduites à risque. Il y a une autre inquiétude cette année, et elle est de taille que l'on n'avait sans doute pas vu venir. Les coupes budgétaires de l'administration américaine qui risquent de faire un bond en arrière à la lutte contre le sida et même qui risquent de faire repartir l'épidémie. Sans les financements américains, que deviendra la recherche qui permet aujourd'hui de vivre avec le virus, faute de savoir le guérir ou le contrer une bonne fois par un vaccin? C'est donc avec inquiétude que le SIDAction cette année veut mettre le paquet sur la recherche. La mobilisation, elle commence demain, elle durera tout le week-end. On est heureux de l'accompagner. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Mathilde, vous êtes la première, vous êtes la bienvenue. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On vous écoute, Mathilde.
Donc, je suis Mathilde Varette, je suis infirmière de l'éducation nationale et je suis également secrétaire générale adjointe du SNICS FSU. Alors moi, je voulais témoigner sur le travail que les infirmières de l'éducation nationale effectuent quotidiennement dans les établissements scolaires lors des actions d'éducation à la santé et à la sexualité plus précisément. Il est vrai qu'on constate que depuis quelques années, les élèves méconnaissent les modes de transmission, les moyens de protection. Et ils ont également une croyance qu'on peut se soigner du VIH. Mmh.
Et depuis quand, en fait, Mathilde, et je poserai aussi la question à nos invités, vous dites depuis quelques années, je me demandais si ça datait, en fait, si ça fait longtemps, finalement, que ce chiffre ne bouge pas. Par exemple, quand on a cessé d'en mourir, et là, subitement, c'est devenu moins grave et donc on s'intéresse moins. Vous le situez comment, en fait?
Alors effectivement, je pense que c'est depuis qu'on a cessé d'en mourir et que les traitements permettent de vivre avec le VIH. Et du coup, il y a une diminution des moyens mis dans les établissements scolaires pour parler du VIH et du sida, alors que dans les années 80-90, les élèves ont été extrêmement informés, voire même apeurés du coup. Par rapport à ce sujet.
Et c'est vrai que moi j'appartiens à cette génération à qui on a fait peur. Il y avait le vécu, il y avait la maladie qui avait commencé et puis qu'on voyait évoluer. Il y avait aussi la littérature en fait et tout ça à la fois. Mathilde, je vous remercie beaucoup de l'entrée en matière de ce téléphone sonne pour discuter ensemble autour de la table. Il y a Florence Thune, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice générale du SIDAction, c'est vous. Il y a Chloé Hino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de prévention. On dit quoi? On dit le CRIPS?
On dit le CRIPS.
On dit le CRIPS.
C'est voilà.
Comme des CRIPS. Au CRIPS, IDF. Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida. Florence Thune, là-dessus, est-ce que c'est là aussi que vous situez ce moment où ça devient difficile? En fait, dès lors qu'on n'en meurt plus, subitement ça devient moins grave et c'est très banalisé, finalement?
Alors, oui, il y a deux choses. C'est à la fois, on n'en meurt plus, c'est ce qu'on dit.
On a tous mis des guillemets en même temps qu'on dit ça.
Oui, parce qu'il y a encore 6 000 morts dans le monde chaque année. Et puis, il y a une invisibilisation, effectivement, du VIH. Des personnes peuvent dire, moi, je connais personne qui a le VIH, alors qu'elles sont peut-être entourées de personnes qui vivent avec le VIH, parce qu'effectivement, c'est invisible quand on va bien. Donc, on sent vraiment cet éloignement du sujet autour du VIH. Et ce qui alimente aussi cet aspect-là, c'est que ce n'est pas que les plus jeunes, hein, puisque on sait que parmi les 5500 personnes qui découvrent leur séropositivité, il y a 22% de personnes de plus de 50 ans.
Absolument. Donc 17% pour les gens qui nous écoutent, hein, 17% c'est des jeunes de moins de 25 ans, mais 22% quand même, ce sont des 50 ans.
Et donc c'est une génération qui de fait a vécu ces terribles années et qui oublie aussi au moment où ils se séparent ou une nouvelle compagne, un nouveau compagnon, que le préservatif est bien utile. Et par ailleurs, ces personnes souvent découvrent tardivement leur séropositivité. Mmh. Et donc ça veut dire qu'ils ont été contaminés il y a plusieurs années déjà.
Parce qu'on ne se teste plus. Et là aussi, Chloé Hinault, moi, en regardant les chiffres, l'un de ceux qui m'a le plus effrayé au fond, c'est les 65% de jeunes qui ne savent pas où on se fait dépister et s'il faut se faire dépister. Enfin, c'est quand même un pourcentage qui est extrêmement haut et qui est presque affolant en fait.
C'est totalement affolant. Après, avant septembre 2024, parce que maintenant, depuis septembre 2024, ils peuvent se faire dépister en laboratoire assez facilement.
Et gratuitement.
Et gratuitement.
Quand on a moins de 26 ans. Hein.
Pas sur toutes les IST, hein, mais sur celles qui les concernent le plus. Et c'est vrai qu'avant ça, au final, il fallait quand même aller chez le médecin, fallait avoir sa petite ordo, fallait payer le médecin, et ensuite on pouvait aller se faire dépister. Après, tout ce qui est haute structure, c'est vrai que malheureusement, c'est pas très bien connu auprès des jeunes.
Mais si on se fait pas dépister, c'est parce qu'on ça traverse pas l'esprit, en fait, qu'on peut avoir été contaminé. C'est peut-être ça aussi le problème, non,
Chloé Hinault ? Il y a la peur aussi de vouloir, de découvrir qu'on a une maladie. Souvent, en plus, on se demande, si on est mineur, est-ce que papa, maman, faut qu'ils soient là, et tout. Donc non, il y a la peur et du coup la procrastination, clairement, de laisser le truc potentiellement à un moment donné émerger, mais on va taire le truc un petit peu avant, quoi.
Est-ce qu'on peut répondre à ça, Florence Thune, si on est mineur et qu'on a un doute et qu'on veut se faire tester, on peut y aller sans ses parents, c'est important de le dire.
Oui, et pour rappel, le dépistage dans les laboratoires, c'est à n'importe quel âge, gratuit, sans rendez-vous, et ça c'est vraiment important. On a une carte de sécurité sociale aussi, et ça c'est vraiment... on a aussi les autotests dans les pharmacies, donc il y a toute une palette en fait de possibilités de se faire dépister. On voit bien dans le sondage qu'on a fait récemment, c'est que quand on pose la question aux jeunes de savoir si ce qu'ils ressentiraient si ils apprenaient qu'ils étaient séropositifs, on a la honte et la peur. Ça reste encore très ancré.
Et effectivement, les discriminations toujours là. Qu'est-ce qu'ils disent quand on parle de sida, Chloé Hinault, les jeunes?
C'est un cancer des gays. C'est encore très voilà. Présent. Ouais.
Bienvenue en 1985.
Non, c'est pour ça que moi je reviens beaucoup sur la notion des 4 H. Je sais pas si c'est au clair.
Vous allez nous raconter, mais sérieusement, donc les jeunes vous disent c'est le cancer des gays.
C'est le cancer des gays, non, c'est la maladie des gays, ils le disent. Mais oui, ça revient. En fait, ils associent vraiment encore le VIH, le sida, aux personnes homosexuelles. Voilà. Les 4H, après, je commence à leur dire que c'était 4 population, on va dire, qui était stigmatisée, et forcément, quand on va parler, donc il y a les homosexuels, une orientation sexuelle, du coup, il y a les usagers de drogue, les héroïnomanes, les haïtiens, les hémophiles, enfin, en fait, du coup, c'est plein de catégories de personnes, et du coup, comme on traite les discriminations, ils peuvent se retrouver dans certaines. Donc, du coup, c'est ça qui permet de jouer sur l'empathie, de faire comprendre que, c'est pas trop cool encore d'associer ça aux homosexuels et juste même de rejeter de base une personne séropositive, quoi.
Je me demandais, Florence Thune, on va retourner au standard dans un instant, si le fait qu'on se réfère à des choses qui sont tellement anciennes, dont on a mis tellement de temps à couper le coup à ces histoires-là, je me demandais si c'était lié aussi à la période qu'on traverse aujourd'hui, enfin une période de fake news, de difficultés de l'information, etc. Et du coup, ce qu'on va chercher dans les tréfonds d'un Internet que vous et moi, peut-être, on ne connaît pas, c'est effectivement ce qu'on disait il y a 40 ans, au début, en fait.
Ce qui est en tout cas sûr, c'est que ce qu'on a pu voir, nous, depuis la période Covid, c'est aussi le retour des tests complotistes. Alors, on les avait déjà avant le Covid, mais ça s'est vraiment accéléré. Alors, ça participe justement au fait que soit le VIH n'existe pas.
On a beaucoup entendu, nous, au téléphone, comment c'est possible qu'on trouve un vaccin pour le Covid si vite, alors qu'on n'a rien trouvé pour le sida, c'est donc qu'on le fait exprès, fermer les guillemets.
On est dans la méconnaissance du fait que ce virus, effectivement, est extrêmement compliqué, n'a rien à voir, ne fonctionne pas comme le virus du Covid. C'est cette méfiance qui perdure.
Raphaël est avec nous. Bonsoir, Raphaël.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je vous appelle parce que moi, je suis assez surprise par l'étonnement de l'ignorance de nos jeunes. Parce que, j'ai presque 50 ans. Donc, j'ai vécu l'adolescence avec un vrai travail pédagogique à l'école, enfin au lycée, de prévention, avec un... Il y avait je me souviens qu'il y avait des campagnes de publicité assez choc à la télévision, au cinéma, qu'il y avait des associations comme ACT UP qui faisaient des événements très puissants. Et puis, il y avait des distributeurs de préservatifs dans les lycées, à l'entrée du lycée. Et qu'aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus, en fait. Il n'y a pas de prise en charge par l'éducation nationale, notamment. Et j'ai trois enfants, mais deux garçons qui ont 21 et 16 ans. Et c'est un sujet qui est complètement absent de l'école, en fait. Et mes enfants, ils sont au courant parce que nous, on en parle à la maison, mais c'est un travail que peut-être toutes les familles ne sont pas en capacité de faire. Et il n'y a plus de relais. Et ces campagnes de pub, elles n'existent plus. Il n'y a plus d'affichage, il n'y a plus de publicité à la télé. Il n'y a plus de... C'est comme si, en fait, c'est pas tellement de leur faute, c'est-à-dire qu'il y a comme un mouvement général autour de la question de bon, bah, il n'y a plus besoin de faire de prévention, en fait. Et j'ai été même hyper surprise de voir que distributeur de préservatifs, parce qu'il en restait un dans le lycée où était mon fils.
Il était vide, non?
Non, il n'était pas vide, il était planqué, en fait. Ouais. Il était dans une cage d'escalier, derrière. Enfin, il y avait quelque chose comme si c'était honteux d'aller chercher un préservatif.
Bah, surtout s'il a été installé par ailleurs en 1994. Bon, on vous conseille peut-être d'aller demander à vos enfants d'aller les chercher ailleurs.
Mais je ne sais pas, je me souviens que ma génération, ouais, on avait quelque chose de fierté, en fait, avoir des capotes dans la poche. On avait des émissions de télévision qui se terminaient par sortez couverts. Il y avait un vrai travail pédagogique et sur ces questions-là qui n'existent plus.
Merci.
Donc je suis étonnée qu'on puisse être surpris de l'ignorance des jeunes, en fait.
Merci beaucoup, Raphaël. Je voudrais rajouter au témoignage de Raphaël celui de Julia sur WhatsApp, qui dit non, les jeunes ne sont pas assez informés, et pire, ils ne se sentent pas concernés, ce qui revient aussi à la même chose. Malheureusement, ma génération non plus d'ailleurs, dit-elle. Combien de connaissances j'ai entendu se plaindre de l'inconfort des capotes, donc prendre le risque, et majoritairement les hommes qui sont plus inquiets d'une grossesse que d'une infection sexuellement transmissible. Elle dit, j'ai 40 ans, je suis mère de 3 enfants, mon aîné va avoir 15 ans, c'est moi qui l'informe. Et elle n'est pas toujours à l'aise, d'ailleurs, avec tous ces sujets. Ils ont raison, nos auditeurs, elle a raison, notre auditrice Chloé Hino, quand elle dit qu'il n'y a plus de pub à la télé, il n'y a plus effectivement de distributeurs de préservatifs. Moi, je me souviens que non seulement il y en avait, mais on se battait, les proviseurs se battaient, il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre, il y avait un débat autour de ça. Ce débat, il existe encore dans les écoles?
Alors,
vous pouvez y aller, vous,
pour,
ou pas?
Pour, dans certains lycées, il en existe encore, des petits distributeurs, mais c'est très rare, c'est quasiment qu'à Paris. Et oui, je vous entendais dire si c'était vide, la plupart sont vides ou cachés, effectivement. Après, maintenant, normalement, hein, les infirmières scolaires, les infirmeries scolaires sont censées avoir des préservatifs. Et le dernier petit truc, c'est que oui, ça s'est totalement perdu, tout ce qui est sensibilisation, sortez couvert. Bon, sortez couvert, c'est quand même normalement la marque d'un préservatif gratuit actuellement, en plus d'Eden. Donc, bon, c'est vrai qu'on est carrément moins investi qu'avant sur ce sujet, et je pense aussi, on le disait au départ, ils se sentent pas concernés, en fait. C'est pas, ils ont pas du tout vécu cette période-là. Je pense pas qu'ils ont un entourage qui a le VIH, et du coup, pour eux, c'est un truc qui revient beaucoup, mais parfois, c'est moins pire que le diabète. C'est déjà des choses qu'on entend.
Comment on fait, Florence Thune, pour inverser cette vapeur-là, pour y retourner? Est-ce que, par exemple, si vous allez voir les pouvoirs publics en disant faut refaire une campagne de pub, est-ce que vous entendez vraiment? Comment ça se passe?
Oui, okay. C'est effectivement. Mais ce qu'on a fait, et on est fiers parce qu'il faut aussi parler des succès, c'est qu'on a formé aussi un collectif pour porter plainte contre l'État il y a un peu plus d'un an, contre l'éducation nationale, pour non-application des 3 séances d'éducation à la sexualité par an. Et de fait, on a aujourd'hui des programmes qui ont été officialisés sur les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et qui vont être mis en place à partir de la rentrée de septembre. Et c'est ce qu'on veut vraiment, parce qu'on sait aussi que parler VIH, c'est aussi parler de consentement, de respect de soi, enfin c'est bien plus large, en fait. Et ça, c'est vraiment important que ces programmes se mettent en place, parce que ça va contribuer effectivement à mieux informer les jeunes sur plein de sujets à la fois. Et puis effectivement de refaire des campagnes de prévention pour notamment permettre aussi de lutter contre les discriminations qui sont encore très très forte aujourd'hui.
Mais alors justement, si on vous répond ou on vous répond pas d'ailleurs, quand vous dites qu'il faut refaire une campagne de pub, ça dit jusqu'à quel point au fond, même aux yeux de l'État, mais même aux yeux de la société, en fait d'une manière générale, le sida, c'est plus un sujet, quoi.
Le sujet aujourd'hui, c'est de manière globale et générale la santé sexuelle, et qui est important aussi parce que ça comporte aussi un certain nombre de points qu'il faut aborder tout au long de la vie. Néanmoins, on a le sentiment aujourd'hui que le VIH est justement noyé dans cette santé sexuelle et qu'on oublie qu'il y a une spécificité aussi liée au VIH, qu'on ne va pas se faire dépister de n'importe quelle infection sexuellement transmissible comme pour aussi le VIH. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut réinsister et vraiment, même s'il y a une importance d'avoir des actions de prévention auprès de populations très ciblées, néanmoins, il y a aussi une nécessité d'avoir de nouveau une campagne grand public pour rappeler surtout ce qu'est le VIH aujourd'hui.
Anne est avec nous. Bonsoir, Anne.
Bonsoir.
On vous écoute, Anne.
Bonsoir, je suis médecin du travail à Montpellier et je vois évidemment tous les jours des gens et je leur parle toujours de problèmes de sexualité. Et leur, quand je parle des problèmes gynéco, je leur dis ben, est-ce que vous vous protégez ? Voilà. Et beaucoup me disent ben non, pourquoi ? Ça sert. Il n'y a plus rien maintenant, on fait les tests et c'est bon. Mais je dis mais il ne faut pas faire les tests, il faut vous protéger en premier. Le préservatif, ce n'est pas facultatif. Et je le dis à 18 ans et je le dis aussi à 55 ans, en particulier les gens qui divorcent, parce qu'à ça là, on divorce souvent.
Absolument.
Et on ne fait pas attention. Donc je leur dis, le préservatif, ce n'est pas facultatif. Je vous parle de ça, pas par indiscrétion, simplement parce que le VIH circule toujours. Et j'avais retenu votre chiffre de 2500 nouveaux cas par an. Ouais. Voilà, parce que voilà. Et puis moi, j'ai démarré mes études de médecine en 80 avec le début du SIDA. J'ai vu beaucoup de gens mourir du SIDA, dont des proches. Et du coup, si vous voulez, je leur dis, il y a encore des gens qui meurent du SIDA et c'est plus possible.
Merci.
Il n'y a pas de campagne en médecine du travail du tout par rapport à ça.
Merci Anne pour votre témoignage, pas en médecine du travail non plus, je vois Florence Kuhn qui dit elle a raison.
Et oui, parce que vraiment je remercie cette dame parce que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, le fait que des médecins, y compris des médecins généralistes, des médecins de famille, puissent parler à leurs patients de sexualité, puissent effectivement très naturellement leur dire est-ce que vous avez déjà fait un test de dépistage, voilà, sans intrusion, sans indiscrétion, mais vraiment je suis ravie d'entendre ce témoignage parce que c'est vraiment le meilleur moyen de justement d'éviter ces occasions loupées de pouvoir avoir un test, et c'est ce qui explique aussi que des personnes découvrent leur séropositivité après avoir été contaminées il y a déjà de nombreuses années.
Est-ce qu'on peut dire là aux gens qui nous écoutent, puisqu'il y en a beaucoup qui semblent ne pas le savoir chez les jeunes, mais à mon avis pas seulement, lorsqu'on a un doute, qu'on multiplie les partenaires, ou qu'on en a un nouveau, etc., où est-ce qu'on se fait dépister aujourd'hui le plus facilement ?
Vraiment, le plus facilement, c'est dans cette opération au laboratoire, ça s'appelait au labo sans ordo, enfin vraiment, vous pouvez aller n'importe quel laboratoire sans rendez-vous, et même maintenant dans les laboratoires, on voit de plus en plus d'affiches qui permettent de faire ce test de dépistage. Si les personnes préfèrent aller acheter un autotest en pharmacie, il y a vraiment toute une possibilité, ou d'aller voir leur médecin pour être...
L'autotest, la fiabilité de l'autotest,
oui,
on dit tout va bien.
Il y a toujours un s'il est positif, il y a toujours une vérification après. Mais de fait, c'est aujourd'hui, on voudrait nous, alors non pas banaliser le VIH, mais banaliser cet accès au dépistage.
Voici Sylvain qui est avec nous. Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir,
merci
de prendre mon appel.
Je vous en prie, allez-y.
Donc, je disais à votre interlocuteur, donc j'ai 53 ans, je suis homosexuel, donc j'ai vécu des années SIDA et puis le manque d'informations qu'on avait à l'époque, la difficulté de savoir comment l'attraper, etc. Et j'étais très effaré d'entendre les propos sur le retour que vous avez des jeunes aujourd'hui qui ont encore ces idées reçues que l'on avait il y a plus de 30 ans. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, moi je sors, je vais en soirée... dans des bars homosexuels, etc. Et on a souvent des discussions autour de la protection. Et c'est devenu un tabou, notamment à cause de la PrEP, qui est comme une pilule magique qui ferait que on ne risque plus rien. Et que c'est le plaisir avant tout. Et que même si on parle d'autres MST, la protection, c'est souvent un problème. Le problème du plastique, le problème de sortir la capote, etc.
Mais du coup, Sylvain, à l'âge que vous avez, vous, par exemple, est-ce que parfois, quand vous sortez, on vous prend pour un... On vous dit, c'est bon, ok, boomer, quoi. Parce que vous avez le réflexe du préservatif. Est-ce qu'il y a une espèce
parce que,
de...
En plus, moi, je participe à un club, et donc je distribue des préservatifs à certaines soirées. Et c'est vrai que le débat vient là-dessus et on nous regarde un petit peu comme à quoi ça sert, vous êtes un peu les vieux de la vieille génération. Et c'est un débat qui est difficile, même si on essaye de faire de la prévention, qu'on essaye de les amener dans des associations homosexuelles où on parle beaucoup de prévention, on sent qu'il y a Oui, mais j'ai pas envie de sortir une capote devant un partenaire. Si l'autre me dit non, j'ai pas envie de lui dire non non plus.
Mmh. Voilà. Merci pour votre témoignage, Sylvain. Merci beaucoup. Quand on écoute Sylvain, c'était d'ailleurs le sens de sa question aussi, quand il l'a laissé au standard. Qu'est-ce qu'on a raté, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a raté, qu'on n'a pas su faire? Un passage qu'on n'a pas su avoir?
Alors, je pense qu'on a oublié ce qu'était une épidémie, avec un virus qui circule. Et effectivement, on a raté, ou collectivement, effectivement, alors, pas si d'action, parce qu'on est toujours mobilisés
ouais,
depuis
toujours
longtemps, mais,
ouais.
Mais effectivement, on sent bien que, notamment, cette éducation et cette information auprès des jeunes, elle est fondamentale, parce que c'est ce qui permet aussi, une fois qu'on rentre dans la vie sexuelle, quel que soit son âge, c'est de rentrer dans une vie sexuelle épanouie et protégée. Et je pense qu'on a un trou dans la raquette d'au moins 20 ans, c'est-à-dire qu'on ouais. a vraiment raté quelque chose.
20 ans
effectivement. Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a cette... très vite, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, dès que les traitements ont été ouais. efficaces et que le nombre de décès en France a chuté, et tant mieux, enfin,
bah,
ça montre
ouais.
l'efficacité des traitements. On a effectivement complètement mis de côté cette importance de continuer cette prévention à tous les niveaux, hein, parce que parfois il n'y a pas forcément besoin de grandes campagnes de prévention. Il faut que tous les professionnels de santé puissent se saisir de ce message, que voilà, qu'on continue tout simplement à entendre régulièrement parler et de se saisir aussi, alors maintenant, hein, des nouveaux outils auprès des jeunes, que sont voilà les réseaux sociaux et la musique.
Et j'allais vous poser la question, Chloé Hinault, parce que vous êtes jeune, vous avez quel âge?
J'ai 25 ans.
Voilà, vous êtes vraiment très jeune. Vous êtes tatouée, ce que je veux dire c'est que vous pouvez ressembler aux jeunes gens que vous allez voir en fait.
Oui.
Et je me demandais si, jusqu'à quel point ça comptait vraiment. En gros, si c'est Sylvain qui a 53 ans et qui vient leur parler, est-ce que vous pensez que ça aura une efficacité, cette génération-là?
Nous, on a des collègues
ou pas, en fait,
qui ont le double de mon âge et qui savent très bien, très très bien faire leur travail.
Ça, j'ai aucun doute, mais c'est pour que les enfants, les ados, les jeunes, les enfants, non pas les enfants, les jeunes, les jeunes adultes puissent se référer en fait à quelque
oui,
chose.
Oui, oui, ça aide. Hein, c'est ce qu'on appelle la prévention par les pairs.
Bah oui.
Ils s'imaginent
que, question, ouais.
que j'ai, enfin, je sais pas d'ailleurs s'ils s'imaginent l'âge que j'ai, mais en tout cas, ils savent, je pense physiquement qu'on n'est pas.
Exactement. Si... Vous n'êtes pas très éloigné. Ouais.
C'est ça. Donc ça aide à libérer la parole sur plein de sujets, on le disait, hein, les séances de santé sexuelle, c'est malheureusement pas que le VIH, c'est plein d'autres thématiques. Mais c'est vrai que ouais, ça leur permet de poser des questions, je pense qu'ils se sentiraient peut-être un petit peu jugés ou autres, parce que typiquement sur les façons de contaminer, voilà, par exemple les liquides style urine, bave, transpiration, voilà, ils sont quand même curieux de savoir comment ça se transmet. Mais par contre, pour en parler, et je vais rejoindre ce que tu disais du coup, Florence, c'est vraiment tout ce qui est nouveaux outils pour leur en parler. C'est, on va pas se mentir, un peu compliqué de parler d'une épidémie sans les plomber, sans les perdre, hein, on va pas se mentir. Donc, typiquement, avec moi, je pensais beaucoup aux représentations de films. Voilà, Philadelphia, Dallas Buyers Club, 120 battements par minute, on a beaucoup une représentation très marquée physiquement de la personne qui porte le VIH. Et ça, c'est dommage, parce que forcément, on n'a que ça en tête. Et du coup, dans certains questionnements de jeunes, ça va être « Mais du coup, ça se voit quand on a le VIH ?» Ou « C'est pas des bleus, des ecchymoses ou des trucs comme ça ?» Non, c'est plus actuel. Et le truc, c'est qu'on n'a pas forcément des nouveaux outils, du coup, pour bien en parler et juste en parler de ce à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Quoi.
C'est intéressant... ce que dit Chloé sur les représentations, effectivement, parce que les films que vous avez cités, Philadelphie, ça a quoi, 30 ans, 35 ans peut-être,
ouais,
enfin, au moins. Dallas Buyers Club, ça parle du début de l'épidémie.
Puis Travailleuse du sexe,
exactement.
Y a différents trucs, hein.
120 battements par minute, c'est pareil, c'est le début d'ACT UP. Donc du coup, une représentation et l'idée du SIDA qui existe aujourd'hui là, dans les années 2020. Etc. Ça n'existe pas, Florence Thune. On n'a pas.
Non, non, insuffisamment. En tout cas, il y a certaines séries, malheureusement pas françaises, qui sont diffusées et qui présentent des personnages, des jeunes vivant avec le VIH. Et ça, c'est vraiment. Ce serait chouette d'avoir aussi des séries plus connues en France et qui intègrent des personnages vivant avec le VIH. Voilà, on essaye de faire passer les messages autrement. On a fait une belle chanson avec Damso
ouais,
récemment. Donc,
mais
voilà,
oui, mais alors, et en préparant cette émission, je vois qu'il y a une chanson avec Damso, super, et 17 autres, et je me rends compte que le dernier hymne, c'est Pascal Obispo. Il a quel âge? Il a presque 20 ans, enfin.
Le dernier hymne... Oui, depuis, c'était en 94, en
c'était au début, c'était en
94, donc ça fait 30 ans.
Mais on l'entend encore aujourd'hui.
C'est on l'entend encore aujourd'hui, et c'est tant mieux. On est en train de parler de sida, de sidaction, de prévention contre le sida, d'information des jeunes aussi. Au téléphone sonne avec Florence Thune, qui est directrice générale du sidaction, avec Chloé Hinault, qui est chargée de prévention au CRIPS Île-de-France, et aussi avec une note vocale qu'on découvre ensemble, c'est celle de Louisa.
Bonsoir, je vous appelle par rapport à votre thème de ce soir qui me touche particulièrement, puisque j'ai deux enfants, deux garçons en l'occurrence, de 22 et 18 ans. Et il est vrai que le sujet des MST, je l'ai abordé avec eux depuis leur plus tendre adolescence, puisque ce sujet est absent du lycée, est absent de partout. Donc voilà, moi j'en ai parlé à mes deux garçons, sans honte, sans tabou. Je leur ai dit que c'était une maladie qu'on pouvait attraper. Surtout que s'ils avaient besoin de préservatifs, qu'ils me le disent, que je leur donnerai de l'argent pour en acheter. C'est quelque chose de très important à tous les parents de le faire. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou à parler de ce genre de choses avec ses enfants.
Merci à Louisa pour sa note vocale. Il faut rajouter, une fois de plus, Florence Thune, quand on est ado, post-ado, jeune adulte, comme les enfants de notre auditrice, c'est gratuit. On peut aller acheter des préservatifs gratuits. Aller chercher des préservatifs gratuits.
Et ils ne le savent pas.
Ouais.
Ça, ils ne connaissent pas les marques. Hein. Souvent, quand on intervient auprès d'eux, c'est Durex, Manix. Bon, ça, c'est tout ce qu'ils voudraient qu'ils soient gratuits. Mais non, la réalité, c'est que c'est d'autres marques et que les marques, ils ne les connaissent pas.
Et donc, allez-y, les
donc,
marques.
C'est les Eden. Alors, aussi, il y a deux préservatifs. Hein, le préservatif interne et externe, donc externe celui qu'on connaît le plus quoi, et donc du coup celui-là c'est les marques Eden et Sortez Couverts qui sont gratuites, et le préservatif interne donc lui il est aussi gratuit, bon il a pris un peu plus de temps mais il est gratuit et c'est la marque Hormel.
Ouais. Et ben voilà, c'est important de le dire, j'ai 33 ans, nous dit Laura, très sensibilisée au sida, etc. Côté préservatif, c'est automatique, mais honnêtement, dit-elle, depuis 5 ans seulement, avant je faisais à la tête de mon partenaire. Par contre, 1 à 2 dépistages par an. À la tête du partenaire, ça ne veut tellement rien dire, mais je comprends totalement, je veux dire, on se jette tous la pierre, hein, mais ça veut tellement rien dire en soi.
La question de la confiance dans le partenaire est souvent une raison pour laquelle on ne ferait pas de test de dépistage. Et effectivement, ça on le voit chez les jeunes et les moins jeunes, hein, en tout cas la confiance n'est pas un outil de prévention, n'est pas un outil de protection.
N'est pas un outil de protection, ouais. Voyons, faisons comme dans X-Files, ne faisons confiance à personne. Y a quelque chose qu'on a sauté tout à l'heure, je voulais revenir avec la question de l'auditeur précédent, c'était la PrEP. Florence Thune, la PrEP, je vais le mettre avec des guillemets, ce qui est un peu plus complexe que ça, mais c'est fait pour les gens effectivement qui ont des conduites à risque et qui les aident eux. En quoi, c'est ce que nous disait Sylvain, le fait que la PrEP existe, désormais on a cru qu'il y avait une pilule miracle, comme une espèce de pilule du lendemain.
Alors, j'aurais juste apporter une petite nuance. La PrEP, ce traitement préventif, il est aussi efficace que le préservatif contre le VIH. Donc effectivement, il ne protège pas.
Je vais vous interrompre, Florentine, parce qu'on a Laurent qui veut justement parler de ce sujet-là.
Ah, d'accord.
Et du coup, puisqu'il est là,
parfait.
Laurent, soyez le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Pardon, allez-y, bonsoir. Vous arrivez pile au milieu de la discussion sur la PrEP, allez-y.
Oui, je m'étonnais qu'elle ne soit pas évoquée, donc j'appelle de Caen, j'ai 60 ans, homosexuel, et j'ai traversé l'époque sida avec toute l'horreur qu'il y a pu y avoir. J'ai découvert personnellement la prévention PrEP il y a 5 ans, et je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faudrait évoquer et qu'il faudrait diffuser de façon un peu plus large. Pourquoi ? Parce que après un protocole très précis et qui peut être maintenant initié par son médecin de famille, il y a un suivi complet tous les 3 mois. Alors contrairement à certains qui se disent qu'ils n'ont pas de signes, donc ils sont atteints de rien, eh ben, ce suivi permet au moins de dépister les MST, puisque la PrEP ne prémunit pas contre les MST, évidemment. Ça, il faut bien que ce soit affiché. L'autre avantage, c'est que lorsqu'on est avec un ou une partenaire, même si l'autre nous dit « je suis sous PrEP », on ne sait pas comment il a pris son traitement, s'il le prend réellement, s'il est réellement sous PrEP, lorsqu'on l'est soi-même, au moins on gère sa sexualité. Voilà. Cela n'empêche pas, bien évidemment, les préservatifs contre les MST, mais cela prémunit du sida qui est quand même mortel, alors que les MST ne le sont pas et se soignent.
Merci beaucoup Laurent pour votre témoignage. Florence Thune, la PrEP, remède miracle ou attention au remède miracle, qu'est-ce qu'on dit de la PrEP?
Moi je le vois simplement comme un outil de prévention de plus. On a le luxe en France et dans les pays où la PrEP existe, d'avoir plusieurs outils de prévention et de protection que sont le préservatif et la PrEP. Chacun peut choisir au moment qui lui convient le mieux d'utiliser ou le préservatif ou la PrEP ou les deux. Enfin, on peut se saisir vraiment de tous ces outils et c'est vraiment le principal de se saisir au moins d'un des deux, ça c'est sûr. Et je pense que ça peut aussi être extrêmement utile, notamment pour des femmes. Moi, je vis avec le VIH depuis 30 ans. Mmh. Si j'avais eu la PrEP il y a 30 ans, j'aurais pas été contaminée, j'en suis sûre. J'aurais pu utiliser la PrEP pour me protéger, alors que je pouvais pas à ce moment-là utiliser le préservatif.
Il y a Antoine qui nous dit ceci. On entend beaucoup donc parler de la PrEP. En quoi ça consiste, nous dit-il. Ils nous disent aussi, ça semble aussi être utilisé comme un prétexte par certains, ou comme un alibi plutôt, pour ne pas se protéger. Est-ce que c'est le risque ? C'est devenu l'alibi pour ne pas se protéger ?
Alors, pour ne pas se protéger éventuellement contre d'autres IST, mais la PrEP est efficace à 100% contre le VIH. C'est important de se dire, prenons tous les outils à notre disposition. La PrEP n'est pas parfaite, le préservatif n'est pas parfait, mais en tout cas ils sont parfaits contre la prévention, en termes de prévention contre le VIH. C'est un peu comme avant, les femmes vont choisir ou la pilule ou stériliser. Enfin, et il faut se saisir de cette chance-là, de pouvoir avoir plusieurs outils de protection et peut-être les faire plus connaître, notamment par les médecins, et à un moment de choisir l'outil de protection qui nous convient le mieux, quel que soit notre âge et quelle que soit notre sexualité.
Et est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que tous les médecins, les médecins de famille, nous disait notre auditeur à l'instant, non seulement savent, mais très spontanément, sont capables de proposer une PrEP à leur patient ou pas ?
Non, je ne pense pas, malheureusement. Enfin, je pense qu'effectivement, la PrEP est insuffisamment connue, comme est encore trop insuffisamment connue, même la question du VIH. C'est-à-dire que parfois, des médecins ont des attitudes discriminantes envers des personnes séropositives, parce qu'ils ne vont pas savoir qu'en plus, grâce au traitement, on ne transmet plus le VIH. Et ça, c'est vraiment fondamental de rappeler. C'est-à-dire que les personnes qui connaissent leur séropositivité aujourd'hui sont celles qui ne transmettent pas le VIH et qui cassent la courbe de l'épidémie.
Après, hein, et vous l'avez déjà évoqué, Chloé Hinault, mais la discrimination toujours autour de ce virus, enfin, je ne voudrais pas avoir l'air plus naïf que je ne le suis, mais interroge quand même beaucoup toujours.
Ouais, je pense que c'est juste les restes qu'ils ont sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on parle depuis tout à l'heure de méconnaissance et tout, et c'est le cas, mais du coup je pense qu'ils gardent un petit peu les restes de ce qu'ils ont entendu, donc du coup quand on leur parle des usagers de drogue, ça commence à ils commencent à comprendre qu'il y a d'autres façons d'attraper le VIH, mais c'est les restes qu'ils ont, quoi.
Est-ce que, Florence Thune, une question vraiment médicale, qu'est-ce qu'on doit dire de ces quatre guérisons ? Il y en a eu trois, hein, depuis 2009, 2019 et un autre. On est à 7 là ? Ah pardon, dites-moi, qu'est-ce que ça dit ça ? Qu'est-ce que ça nous apprend ?
Commencer, effectivement, ce sont des cas très très particuliers. Oui, oui. Ce sont des personnes qui ont une leucémie, qui ont une greffe de moelle, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle pour eux. Évidemment, c'est pas applicable aux 40 millions de personnes vivant avec le VIH. Néanmoins, ça donne des pistes de recherche. Et ce qui est important, c'est que ça permet d'avoir effectivement des pistes de recherche pour comprendre finalement comment ce virus fonctionne et comment il peut être effectivement éradiqué. Acide Action, et c'est l'objet de notre campagne de notre week-end de collecte, hein, c'est effectivement de collecter des fonds pour la recherche, pour travailler sur ces projets qui nous permettraient un jour d'aller vers la rémission et la guérison du VIH, de vraiment un jour de pouvoir dire effectivement on guérit du VIH, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Est-ce que ça semble dire, est-ce que ça peut dire qu'il n'est pas impossible qu'on sache guérir avant d'en avoir fait un vaccin, en fait, ou pas ?
Alors, effectivement, parfois le vaccin, enfin voilà, on a vraiment beaucoup de mal avec ce vaccin, hein, qui pourrait répondre notamment à tous les variants du VIH. C'est difficile de dater ou de donner effectivement une date, mais on espère très fort en tout cas que au moins des traitements pourraient nous permettre de vivre avec le VIH sans avoir à prendre justement de traitement tout au long de sa vie, d'aller justement vers cette rémission qu'on espère vraiment.
Antoine est là, bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Antoine.
Merci de prendre mon appel. Non, je voulais juste intervenir en tant qu'enseignant de SVT. Et juste rappeler que ce soit en collège ou en lycée, l'éducation à la sexualité fait partie de nos prérogatives. Et qu'à ce titre, donc, on enseigne à la fois la prévention et la contraception. Et on parle des IST et comment s'en protéger.
Merci beaucoup, Antoine. Antoine, allez-y.
Pour rajouter que je pense aussi aujourd'hui que les jeunes ont accès à la pornographie. sur les avec leur téléphone, parce que les contrôles parentaux sont pratiquement inexistants sur les téléphones de nos jeunes, et dans lesquels l'utilisation du préservatif, la problématique des IST n'est jamais abordée. Et donc pour eux, ça semble, ça n'existe pas. Et je pense qu'à notre époque, j'ai 44 ans, à notre époque, au même âge, on en parlait beaucoup plus, effectivement. Et ça rejoint ce qu'une des interlocutrices a dit précédemment.
Merci beaucoup, Antoine. Merci pour votre appel. Vive l'épreuve de SVT, évidemment, Chlorino. Après, il faut reconnaître, et c'est triste à dire, mais il y a une nouvelle mouture de l'éducation, l'éducation sexuelle, et il y a un terme pour ça que j'ai oublié. Merci. Mais parfois, il faut quand même y aller avec des avirons. Enfin, disons les choses clairement. Le nombre d'heures, vous le disiez au début d'émission, est rarement ce qu'il doit être.
Moi, il y a vraiment, je l'identifie, ça, il y a un ou deux établissements où je sais que je reviens tous les ans. Mais c'est vrai que non, c'est vraiment pas acté pour tout le monde, c'est vraiment une séance par-ci, par-là, quand ils peuvent, quoi.
En tout cas, maintenant, il y a des programmes qui vont être normalement mis en place à partir de septembre.
Il y a des programmes, il y a un nouveau texte, il y a des choses en fonction des âges, en fonction des classes, etc. On croise les doigts pour que ça se passe et que ce soit suffisamment répandu. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on aborde, Florence Thune, rapidement, les coupes budgétaires aux États-Unis. Ben, voilà, je vois votre tête, ce qu'il dit.
C'est dramatique, vraiment. On est en contact avec les associations qui voient, en Afrique notamment, leur budget amputé de 70%, 50%. Les activités de prévention, d'actions de dépistage sont arrêtées, des actions des projets d'action au traitement.
Pas de préservatif, au traitement, pas de dépistage, pas de PrEP, rien vraiment, pour les personnes exposées.
C'est l'épidémie va reprendre de plus.
Alors voilà, le sens de ma question, c'était ça. Notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, dans ces pays qui sont extrêmement touchés.
Dans tous les pays où les États-Unis ont arrêté, y compris en Ukraine, il y a vraiment dans le monde entier, la recherche est aussi impactée. Des chercheurs sont licenciés, on a des arrêts de financement, même aujourd'hui en France, sur des projets de recherche, on est dans une situation catastrophique.
D'où l'intérêt du CIDAction ce week-end-là et de donner pour la recherche le numéro, on le redit, comme ça, ce sera
fait. 110, vous pouvez aller sur CIDAction.org.
110 et CIDAction.org, je vous remercie chaleureusement toutes les deux. Merci à tous pour vos nombreux appels. Merci aussi pour la jolie semaine du 18-20. À tous ces piliers, Amaury Baucher, Pierre de Certain, Nathalie Poitvin, la programmation, Thomas Langlin pour la réalisation, Philippe Lefébure pour la rédaction en chef au site et à la doc. Il y a Ryan, et merci à lui, il vient d'arriver. À la technique ce soir, c'était Élise Christophe et Florian Dorimini.